Ok, voyons ensemble maintenant dans ce troisième module comment présenter votre événement. Vous allez voir qu'ici, finalement, dans l'idée, elle est toute simple. Quand on veut organiser un premier séminaire, c'est votre premier séminaire, on a souvent plusieurs craintes et plusieurs peurs, plusieurs angoisses. On se dit, est-ce que je serai à la hauteur de l'événement? Est-ce que je serai capable finalement de gérer toute une salle? Est-ce que je serai capable d'assumer ce poids sur mes épaules? C'est un peu comme si vous deviez organiser un anniversaire d'un ami ou organiser un mariage si vous l'avez déjà fait, sachez qu'il y a un temps de préparation, un temps d'application, mais quand c'est bien organisé, quand c'est bien structuré, les choses se passent très bien et naturellement. Et moi, je vais vous donner ici les plans de stratégie pour vous aider à présenter les choses. Parce que sachez que grâce aux deux premiers modules, vous savez que votre événement est déjà vendu. Les places sont bookées, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous n'avez pas besoin de le faire. Et retenez ceci, c'est que les gens veulent apprendre ce que vous savez. Ils ne sont pas là pour venir vous juger. Ils ne sont pas là pour venir vous analyser. Ils sont là parce que vous savez quelque chose qu'ils ont besoin de savoir pour évoluer soit dans leur business, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur quotidien, en fonction de la promesse de votre séminaire. Et dites-vous déjà que s'ils ont fait l'effort d'investir leur argent pour acheter votre séminaire, acheter une place, c'est qu'ils ne sont pas contre vous. Ils sont là pour apprendre maintenant à vous de leur délivrer le contenu qui sera à la hauteur. Je vais vous partager 5 stratégies pour vous aider à présenter votre séminaire. La première, nous allons voir ensemble comment gérer votre salle. En fonction de la salle, il y a différents types de salles. Vous avez une salle en U, vous avez des salles en V, en L, en fonction finalement de comment vous allez agencer votre événement. Si vous choisissez plutôt un atelier, vous allez plutôt choisir ici une configuration en forme de U pour que les personnes puissent finalement être dans un espèce de cercle qui est facile pour l'interaction, qui favorise l'échange entre les différents participants. Si vous choisissez un atelier, le nombre de participants est plus restreint et plus réduit. L'avantage, évidemment, comme je vous en ai déjà parlé, vous pourrez faire plus d'exercices, vous pourrez connaître les personnes plus individuellement. L'expérience sera aussi forte pour chacun des participants. En revanche, si vous voulez faire un séminaire plus grand avec une cinquantaine, une centaine, voire plus de participants, il y aura évidemment moins d'interactions individuelles avec chacune des personnes. Mais en compensation, il y a une dynamique qui se créera parce que l'effet de groupe, l'effet finalement de motivation, l'effet d'entraînement sera beaucoup plus fort et l'expérience au final sera aussi amplifiée. Donc l'idée n'est pas de dire qu'un événement est meilleur qu'un autre, c'est à vous de choisir. Si vous décidez de faire un séminaire sur une seule journée ou sur plusieurs journées, vous l'avez déjà choisi dans la sélection. Maintenant, comment gérer votre salle? Premièrement, ce que je vous propose de faire, c'est que dès le démarrage de votre séminaire, annoncez les accords de fonctionnement de votre événement. Vous savez, dans la vie, dans les affaires, dans toute interaction entre les êtres humains, on a toujours besoin d'avoir quelques points de principe de fonctionnement pour bien se comprendre, pour bien fonctionner. Nous avons besoin finalement de repères. Et je peux utiliser le mot « règle », même si le mot « règle » peut sembler un peu trop strict. Mais ici, on a besoin de principes, que ce soit dans un foyer, entre des personnes qui habitent dans la même maison, qu'il s'agisse d'être dans un cadre professionnel, dans un bureau, on a besoin de savoir finalement qui fait quoi, comment est-ce qu'on s'organise, quel sera le plan de la journée et du fonctionnement. C'est exactement la même chose, le même principe quand vous organisez un séminaire. Vos participants ont besoin de savoir finalement qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et quelles sont les autorisations autres? C'est la raison pour laquelle la première idée, c'est quand vous commencez votre séminaire, après bien sûr l'introduction, la présentation, l'animation musicale ou la surprise que vous allez mettre, on en parlera un peu plus tard, tout de suite de poser les accords de base, les accords de fonctionnement. Prenons un exemple. Je ne sais pas quelle est votre thématique, quel est votre style d'accord de base, mais je vais vous donner quelques exemples qui sont assez généraux, qui font vous servir dans n'importe quel type de domaine. Vous pouvez très bien donner par exemple un principe sur l'heure et le programme, en disant par exemple comment va se dérouler la journée, qu'il y aura des pauses à tel moment, à telle fréquence. Vous pouvez aussi inviter les gens par exemple en donnant quelques accords de base, en disant il y aura à chaque fois une musique qui signalera le démarrage d'une pause et qui aussi invitera tous les participants à revenir à la fin de l'événement. Et donc finalement, les personnes ont besoin de savoir. Celui qui veut savoir, ne pas improviser, savoir finalement chacun se débrouille et c'est le désordre total. Cet accord est donné. On sait quand il y a telle musique, c'est la pause. Quand il y a telle autre musique, on revient. On sait aussi par exemple que Quand il y a la pause du midi, vous demandez aux gens soit de manger dans les lieux, en fonction de comment vous avez organisé la logistique, soit vous leur donnez quelques recommandations et suggestions de bons restaurants qui sont autour, avec, pensez aux personnes qui ont un budget restreint, pensez aux autres qui n'y pensent pas. Ces quelques conseils sont essentiels. Pensez aussi à d'autres règles ou principes quand vous demandez la parole. Si tout le monde, par exemple, intervient à tout bout de champ, eh bien, ce sera peut-être difficile. Certains orateurs disent « Moi, je vais intervenir pendant un certain temps et ensuite, je prévois un temps précis pour faire une pause question. » Donc là, les gens qui savent vos accords, ils ne vont pas s'arrêter pendant votre explication pour vous poser des questions puisqu'ils savent qu'il y a un temps imparti pour ça. D'autres diront, par exemple, si vous avez des questions, eh bien, vous avez qu'à appeler le micro et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ce type de principe, ce type d'accord est essentiel pour la réussite d'un séminaire et ça vous permet finalement de gérer votre salle comme première stratégie. Un autre conseil pour bien gérer votre salle, c'est de vous faire épauler. Ne pensez pas que engager une personne va vous ruiner. Ne pensez pas qu'engager une personne finalement est hors de prix, va écraser vos marges. Dites-vous que si vous êtes seul à tout niveau, il y a des choses auxquelles vous allez penser, mais quand vous êtes sur la scène, vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des éléments, vous aurez besoin d'être épaulé. Par exemple, l'accueil des participants. Quand les gens arrivent le matin, ne serait-ce que pour valider leur inscription, pour voir finalement faire la liste de présence. Ou alors au moment des pauses, pour les inviter les retardataires à venir dans la salle. Ou pour mettre la musique et l'animation. Quand vous êtes sur scène, vous avez besoin de quelqu'un. Alors pas de panique, si vous faites votre premier séminaire, vous vous direz « Oui, mais moi je n'ai pas le budget des grandes sociétés qui engagent du personnel. » Vous pouvez très simplement utiliser les stratégies simples. Dans votre entourage proche, vos amis, votre entourage, il y a des personnes qui seront ravies de vous venir en aide. Il y a, peut-être que vous avez un ami, un cousin, un voisin, hein, qui sera très heureux de passer en échange d'un contenu gratuit parce que vous lui offrez votre séminaire gratuitement, au même titre que d'autres ont payé, vous lui offrez gratuitement. Avec cet échange de procédés, vous pouvez trouver un jeune dynamique, une personne très dynamique qui sera très heureuse de le faire. Et si vous avez déjà une entreprise, vous avez probablement des vrais fans, des personnes qui sont toujours là à vous proposer de l'aide et parfois vous n'entendez pas. Eh bien, c'est le moment ici de les inviter. Pensez aussi, par exemple, à toutes ces personnes qui veulent participer à votre séminaire, mais qui n'ont pas le budget, qui vous ont envoyé des emails ou qui vous ont contacté, qui ont vraiment tout le comportement qu'il faut pour venir de votre séminaire, mais malheureusement ont des difficultés financières. Si vous êtes quelqu'un de très ouvert, vous pouvez très bien utiliser cette stratégie d'échange de procédés. Ils viennent gratuitement et ils peuvent vous épauler d'une manière ou d'une autre. Et ils seront ravis de le faire. Ouais, donc ici, il n'y a pas de limite dans votre tête. Si vous trouvez un obstacle, il faut tout de suite le contourner parce qu'aujourd'hui, organiser un séminaire ne vous coûte rien du tout si vous savez comment vous y prendre. Ensuite, il y a un autre concept pour gérer la salle, pour que cette salle se sente toujours en engagement à tout moment. C'est de faire des jeux de rôle, des exercices pratiques. Ça permet de relancer l'attention des personnes qui se sentent un peu fatiguées, parce que si vous êtes uniquement dans la théorie pendant trop longtemps, eh bien, les personnes se sentiront fatiguées, seront distraites, certaines même risquent de s'endormir. Les jeux de rôle permettent donc de relancer l'attention de vos participants. Ensuite, un autre point ici dans cette première stratégie, c'est de faire régulièrement des relances d'attention. Qu'est-ce qu'une relance d'attention ? La relance d'attention, c'est tout simplement quand les gens sont trop dans une seule situation, dans un seul style de pédagogie. Exemple, vous êtes en train de donner de l'information, vous transmettez de l'information. On a besoin, au-delà même des jeux de rôle, d'un élément qui dure quelques secondes à peine, qui permet finalement de réengager les gens et de créer une dynamique. On appelle ça des relances d'attention. Vous voyez par exemple, certains conférenciers applaudissent, frappent dans les mains. Ou alors certains... D'autres ont un certain cri de guerre. Par exemple, un cri qui est répété souvent. Certains crient « yes », d'autres « quelle heure est-il ? » Et tout le monde répond en cœur quelque chose, une phrase, un slogan. Un slogan qui peut être répété systématiquement dans vos séminaires. Et quand vous avez cette relance d'attention, il vous suffit de lancer la première phrase et vous obtenez un retour. Vous voyez, par exemple, une personne comme Anthony Robbins, qui est un grand conférencier dans la motivation et dans la croissance personnelle, dit une phrase et tout le monde répond « yes ». Tout le monde répond « yes » et c'est une relance d'attention qui vous permet de gérer votre salle et de la ramener comme ça, de la faire à l'unisson, chanter et crier d'une seule voix. Ensuite, un autre point, c'est quand vous voulez gérer votre salle, il est essentiel d'identifier les alliés. Identifiez tout de suite les alliés dans votre salle, c'est-à-dire les personnes qui ont une attitude très très dynamique. Vous voyez tout de suite qu'elles sont tellement enthousiastes qu'elles peuvent être vos alliés. Et il est essentiel quand vous êtes un orateur de repérer et d'identifier vos alliés dans la salle pour que ces alliés puissent vous soutenir, pour que vous puissiez, quand vous avez une question par exemple à poser, vous allez vers ces alliés-là, ils seront les premiers à donner une réponse. Et s'il y a un moment aussi, une autre chose à repérer, ce sont les perturbateurs, ça c'est le point suivant, repérer les perturbateurs ou les éléments un peu plus dangereux. Il y a les perturbateurs qui sont perturbateurs mais pas méchants. C'est pas vraiment méchant, ils perturbent comme de grands enfants, il suffit simplement d'avoir un point ou un autre pour qu'ils puissent revenir à la raison. En revanche, il y en a d'autres plus discrets ceux-là, qui sont des perturbateurs qui attendent finalement de vous tacler, qui attendent que vous fassiez une erreur, qui attendent que vous fassiez quelque chose dans lequel vous êtes mal, qui ont peut-être quelque chose à ce moment-là. Et rassurez-vous, c'est une minorité et parfois on ne les retrouve pas. Mais s'il y a dans votre événement une personne qui n'est pas du tout en alignement avec vos valeurs, parce qu'elle s'est trompée, sale par exemple, eh bien vous la remarquerez plus calme et en attendant vraiment de ce piège. Lorsque vous avez des alliés, les alliés vont toujours venir vous soutenir et la salle sera votre meilleur allié, votre meilleur ambassadeur. Alors pour gérer les perturbateurs, inutile de crier sur eux, inutile de faire comme à l'école quand les enseignants voulaient bloquer les perturbateurs en les pointant du doigt, en les envoyant au coin, en leur demandant de sortir. Ça, vous risquez de vous mettre la salle à dos si vous agissez comme ça. Vous pouvez tout simplement, quand une personne par exemple est en train de discuter, parler souvent, les personnes ne sont plus attentives dans votre salle. Pour la gérer, une stratégie puissante est de diminuer le volume de votre voix. Vous diminuez tout simplement le volume de votre voix, vous continuez dans votre discussion et vous diminuez le volume de votre voix. Vous commencez à parler tout doucement et vous verrez que toute la salle, la tension sera relevée, les perturbateurs s'arrêteront par eux-mêmes. Ensuite, un autre point, c'est quand il y a des personnes qui sont très distraites et qui ne parviennent pas à suivre et vous sentez qu'elles sont vraiment régulièrement dans cette perturbation, là, au lieu de leur crier dessus comme faisaient les enseignants ou de les punir, vous vous rapprochez tout simplement d'une d'entre elles. Vous rapprochez avec un sourire, mais sans fixer brutalement, sans être un ennemi. Tout simplement, venez vers elle, à côté d'elle, et passez tout simplement à côté d'elle et continuez à parler très près d'elle au reste de la salle. Vous verrez qu'automatiquement, elles changeront leur attitude une fois et la deuxième fois, elles se tiendront vraiment bien à cœur. Et puis, un autre point pour bien gérer votre salle, c'est d'être enthousiaste à tout moment. Être enthousiaste, garder cette force, cette énergie, cette vitalité pour que les personnes soient enthousiastes également. Il n'y a rien de plus frustrant, rien de plus fatigant que d'être dans un séminaire où l'orateur nous endort, où l'orateur parle d'une façon trop monotone, d'une façon vraiment trop fatigante et ennuyeuse. Et ici, le fait d'augmenter votre voix, de changer le ton, de passer d'un ton plus calme à un ton plus dynamique, d'aller plus vite et de temps en temps de ralentir, eh bien, fait en sorte que le dynamisme et l'enthousiasme est créé. C'est une forme de leadership quand vous communiquez de cette façon et c'est une excellente façon pour conclure cette première stratégie de gérer votre salle. Ensuite, il y a une deuxième stratégie, c'est de gérer votre stress et votre trac, ou votre trac. Parce que le stress, le trac ne sont pas forcément les mêmes, ils peuvent être liés. Le stress peut être positif parce qu'il peut vous ralentir, mais il peut également vous donner de la force. Et moi, c'est cette idée. Je vais vous demander ici de penser à ceci. Quand on vous dit, je vais vous conseiller, je vais vous donner une technique pour éliminer définitivement le stress, je peux vous dire que c'est faux. Vous ne pouvez pas éliminer totalement le stress, le trac. Vous pouvez tout simplement apprendre à gérer le stress et le trac, apprendre à coexister avec le stress et le trac. Vous pouvez en faire un meilleur ami, un allié tout simplement. Vous n'avez pas besoin de le mettre dehors, vous avez besoin de coexister et bien vivre avec. Comme si vous étiez chez vous en ménage avec votre partenaire de vie, vous n'avez pas besoin, si ça ne va pas, tout simplement de vous dire « Ok, une simple dispute, ok, au revoir, je ne peux pas m'en débarrasser comme ça, simplement sur une simple dispute ». Il faut qu'on puisse coexister, cohabiter ensemble et c'est la première idée qu'il faut prendre quand vous voulez maîtriser votre stress. Pour gérer le trac et le stress, voici quelques conseils. Tout d'abord, pensez à cette imagerie mentale. Donc, souvent le stress ou le trac viennent parce que vous avez dans votre tête plusieurs idées négatives. Tout un scénario comme ça, catastrophique, où vous imaginez vraiment un scénario le plus négatif possible. Les gens de la salle rigolent, vous juge, vous pointe du doigt, vous vous sentez mal dans votre peau, confiance est prise, et vous imaginez le pire. Et donc, quand on s'imagine le pire, automatiquement, il y a le stress qui monte. Et ensuite, le trac qui paralyse peut arriver comme ça et vous bloquer dans l'abdomen, le ventre, la boule au ventre, la gorge sèche, hein, la voix qui tremble, tous ces éléments-là qui peuvent arriver quand le stress, on le laisse nous envahir et qu'on ne décide pas d'être allié avec lui. Cette imagerie mentale, si vous pensez à cette idée, vous pouvez aussi réaliser que si vous êtes capable de faire cette imagerie mentale négative, vous pouvez aussi créer une image mentale positive. Ah oui, puisque vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre. Donc vous pouvez maintenant vous forcer, vous entraîner à imaginer le scénario de réussite le plus total. Donc les gens vous applaudissent, les gens adorent, les gens aiment ce que vous faites, les gens sont heureux d'être présents, les gens vous remercient. Et surtout, ils ne sont pas là pour juger, ils sont là vraiment avec des notes et vous disent « Waouh, ça va changer ma vie ce que vous venez de me transmettre. C'est excellent, je n'avais jamais vu les choses comme ça et c'est effectivement ce qui me manquait. » Vous allez voir qu'automatiquement, vous vous sentirez plus en confiance puisque vous savez que ça fonctionne et les gens sont heureux près de vous. Un autre point, c'est d'apprendre à respirer, de respirer par le ventre. La respiration ventrale vous aide à diminuer votre stress et donc à dompter aussi votre trac, si vous êtes pris et paralysé par ce trac. Et comment bien respirer par le ventre? Pensez toujours à faire cet exercice. Quand vous êtes dans l'inspiration, vous inspirez, le ventre doit tout simplement sortir. Et quand vous expirez, le ventre rentre. Prenez le temps de le faire avant de vous retrouver dans la salle. Entraînez-vous chez vous. Parce que vous pouvez très bien, il peut vous arriver de stresser et d'avoir le trac, rien chez vous, même si vous êtes seul, en vous imaginant dans la salle de séminaire. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer, une imagerie mentale, votre film, viendra dans votre tête et votre cerveau aura l'impression qu'il est déjà en train de vivre cette situation, donc vous vous stressez. À ce moment-là, vous vous entraînez à respirer par le ventre. Vous pouvez le faire par exemple en vous allongeant sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos, bien droit, comme ça, posé. Et vous posez vos mains sur votre ventre. Et vous commencez tout doucement à inspirer profondément. Le ventre sort. Ensuite, vous expirez et le ventre rentre. Inspirez, expirez. Quelques fois comme ça. Pensez à rien. Laissez-vous aller. Vous verrez que votre corps se calme, le stress aussi. Et puis, un conseil encore très rapide et très court, bref, pour que vous puissiez gérer et maîtriser ce trac, ce stress, c'est de penser à vous reposer, bien vous reposer, avant votre séminaire. Si vous passez une nuit blanche, parce que vous êtes à la dernière minute en train de tout préparer, sachez que vous serez encore plus stressé le matin, vous aurez toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas terminé. En revanche, lorsque vous prenez le temps de vous reposer, au moins 8 heures, voire... Je ne vais pas dire plus en fonction de votre organisme, bien sûr. Mais une belle nuit de sommeil, un réveil dynamique vous permet d'assurer, de gérer ce stress et ce trac parce que vous êtes apaisé. Votre corps ne va pas vous déranger. Je vous rajoute un bonus dans cette gestion de trac parce qu'il y a tellement d'astuces et de stratégies qui vous aident à gérer ces situations de stress ou de trac. C'est toujours de penser à vous préparer. La préparation est un grand remède au stress et au trac. Parce que lorsque vous prenez le temps de vous préparer, vous savez que les choses sont sous contrôle. Et si vous êtes même un expert dans votre domaine, vous êtes habitué à organiser des séminaires, mais que vous avez oublié de vous préparer et qu'il vous reste très peu de temps, rien que le fait de regarder votre montre et de vous imaginer à ce moment-là que tout n'est pas prêt quand tout le monde arrive, je peux vous assurer que le trac et le stress montent d'un coup. Boum ! Il y a une mauvaise gestion parce que la préparation n'est pas bonne. Quand vous avez tout préparé, un jour avant, deux ou trois jours à l'avance, vous savez que tout est sous contrôle. Entraîné, la salle est prête, tout est prêt. Vous pouvez être plus tranquille, apaisé. La troisième stratégie ici, c'est comment gérer votre prise de parole. On a déjà évidemment donné quelques conseils et stratégies en parlant des deux stratégies précédentes. Mais là maintenant, la prise de parole directement. Quand vous allez finalement commencer à parler, à communiquer, le son va sortir. Voici quelques conseils. Les conseils de plusieurs mentors, et c'est ceux vraiment qui forment le grand succès des orateurs. Un jour, un grand expert de la prise de parole ou un grand chanteur, un grand artiste qui avait 40 ans de scène rencontre un jeune artiste qui allait faire ses premières scènes. Et le jeune artiste demande à l'ancien artiste expérimenté qui avait plus de 40 ans de scène, donnez-moi un conseil pour bien présenter, pour bien faire mon show, pour bien animer la salle, pour être super dans cette présentation, dans cette performance. Et là, le grand artiste expérimenté lui donne un conseil qui vaut de l'or, que j'applique régulièrement dans pratiquement toutes mes prises de parole. Il lui répond tout simplement, pense à soigner ton introduction, pense ensuite à soigner ta conclusion. Travaille donc sur le début et travaille sur ta fin. Et là, le jeune artiste regarde l'expert et lui dit, le début et la fin, et au milieu alors, qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'artiste expérimenté le regarde droit dans les yeux et lui dit, au milieu, tu te débrouilles. Alors, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Que si vous voulez vraiment réussir votre présentation, pensez très fortement au début et pensez à la fin. Au milieu, vous allez voir que c'est un peu une discussion comme si vous étiez avec des amis. Si je vous dis par exemple, je vous mets dans la salle avec un de vos meilleurs amis ou une personne que vous connaissez et je vous demande de parler d'un sujet que vous connaissez et qui vous plaît. Est-ce qu'il vous faudra vraiment longtemps avant de savoir quoi dire? Non, pas du tout. Vous saurez comment dire les choses. Vous écouterez les questions de votre ami, vous répondrez, ainsi de suite. Eh bien là, le contenu du milieu, vous le connaissez. Vous aurez évidemment un tableau blanc, un PowerPoint, un keynote pour vous aider. Vous aurez un programme avec des sujets. Tout a été préparé à l'avance pour vous aider. Mais savoir discuter, expliquer, partager votre contenu, surtout si c'est votre expertise, sera très facile pendant le milieu. En revanche, la première impression, directe, ce que vous laissez directement l'empreinte, donne le ton de votre séminaire. Et la dernière note aussi, donne le ton. Et reste dans votre tête, dans la tête de vos participants pour le souvenir qu'ils en garderont et donc pour l'expérience qu'ils en ont retirée de votre événement. Soignez votre démarrage et votre introduction et ensuite, le reste, vous vous débrouillez. Un autre point là-dessus, c'est utiliser toujours votre personnalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux séminaires, entre deux conférenciers pour le même sujet, qui traitent du même sujet? C'est la personnalité de l'un ou de l'autre. La façon de faire les choses. C'est ce qui va créer finalement une originalité dans votre discours, qui va créer de la pertinence et qui va surtout faire que c'est une expérience unique que l'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Et pour ça, il faut simplement rajouter votre personnalité, puisque votre personnalité est unique. Vos saveurs, vous les mettez dedans. Ce que vous aimez faire. Si vous êtes, vous adorez la musique, vous êtes un passionné de musique, vous, dans votre vie, vous vivez musique, vous aimez la musique, vous écoutez la musique, eh bien, dans votre séminaire, je veux retrouver une couleur musicale plus forte et plus importante qu'un autre séminaire, d'un de vos confrères par exemple. Si l'autre personne, c'est plutôt l'image, les graphismes, les dessins, l'animation, un vrai passionné, ça fait partie de votre vie. Eh bien, je veux, quand je viens à votre séminaire, retrouver de l'animation, cet échange, ce graphisme, tous ces éléments, beaucoup plus que dans un séminaire d'un de vos confrères. C'est comme ça que vous créez votre légende. C'est comme ça que vous créez la pertinence. Un autre point dans cette stratégie, c'est utiliser l'humour dans votre séminaire. Alors ici, j'insiste, avec précaution. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous n'avez pas forcément l'humour naturel et spontané, ne forcez pas les choses. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant et en tout cas moche à voir que quelqu'un qui fait un humour forcé et qui ne fonctionne pas. Soyez spontané, faites comme si vous parliez à un ami, et quand il y a des choses qui vous semblent ici intéressantes à dire, allez-y. Avec précaution, pourquoi? Parce que si vous tentez l'humour dans certaines salles, dans certaines audiences, ça ne fonctionne pas toujours. Les retours ne sont pas suffisamment là. Comment le savoir? Eh bien, non seulement si vous avez de l'expérience dans ce domaine-là, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il vous suffit de faire un moment une blague simple, mais pas une blague carambar. Non, c'est une phrase qui prête à un style humoristique. Vous testez. Si les retours ne sont pas bons, vous ne sentez pas le retour de la salle, eh bien, la suite, soyez plus sérieux et moins dans l'humour que vous aviez prévu d'être. Ensuite, il y a cet humour naturel et spontané qui viendra comme ça. Mais pensez aussi que les orateurs ont aussi des moments clés humoristiques préparés. Un peu comme un... Si vous allez voir le spectacle, un one-man show, ou si vous allez voir un spectacle d'un humoriste connu que vous aimez, que vous appréciez, il a écrit son texte avec une précision chirurgicale. Il sait exactement à quel moment déclencher les rires. Et d'ailleurs, quand il crée un nouveau spectacle, avant d'aller dans les grandes villes, cet humoriste va dans les petites salles de province pour tester certaines blagues et tester certains points. Et il voit les retours qu'il y a. Quand ça ne fonctionne pas, il se dit « celle-là, il faut que je la remplace, la change ou je la retire de mon texte ». Alors, vous êtes conférencier, si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous êtes dans le séminaire. Même si vous n'êtes pas conférencier, parce que j'insiste, ici, vous pouvez organiser un séminaire sans être conférencier. Vous connaissez des choses et il y a des gens qui ont besoin de le savoir, ils ont besoin de vivre une expérience. Vous pouvez penser comme ça, quand vous avez fini votre présentation, où est-ce que vous pouvez ajouter quelques points comme ça, qui sont finalement des ingrédients, hein, des saveurs, comme si vous ajoutiez quelques épices à un plat, à un repas qui est déjà très bon, pour le rendre excellent. Et puis un dernier point pour cette prise de parole, pensez à toujours poser des questions à votre assemblée, à votre audience, à votre auditoire. Posez des questions pour qu'il y ait évidemment un retour. Il y a plusieurs types de questions. Il y a les questions fermées. Ces questions qui génèrent, qui engendrent uniquement un oui ou un non. Vous dites par exemple aux gens, est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Oui ou non? Ce sont des questions essentielles si vous voulez faire des relances d'attention, parce que vous n'avez pas besoin d'une phrase complète. Imaginez si vous dites comme ça dans la salle, est-ce que tout le monde est heureux dans cette salle? Et là, vous voulez une question fermée pour qu'on vous réponde oui, nous sommes heureux. En revanche, si vous voulez à un moment une question qui nécessite un échange, par exemple, un témoignage d'un participant, vous lui demandez un cas qui a déjà vécu telle situation. Là, dans ce cas-là, il vous faudra poser des questions ouvertes. Et ce sont les questions qui permettent l'interaction, qui permettent l'échange. Ça vous donne de la matière. Et cette matière est essentielle dans un séminaire. Et puis, il y a les questions alternatives. Ce sont des questions qui donnent un choix, un faux choix, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un double choix ou un triple choix. C'est par exemple, vous préférez avant ou après ? Vous préférez le bleu ou le jaune? C'est une fausse alternative parce qu'on a finalement très peu de choix. On choisit l'un ou l'autre. Et un séminaire réussi, un séminaire rentable est réussi, quand vous êtes dans une bonne présentation, une bonne prise de parole, vous pensez à articuler tous ces éléments. Vous pensez finalement à poser des questions ouvertes, des questions fermées et des questions alternatives à certains moments précis de votre exposé. Ça, c'était donc pour la troisième stratégie. Parlons de la quatrième stratégie. C'est maintenant comment avoir confiance en vous pour gérer cette confiance pendant un séminaire. Évidemment, on pourrait parler de la confiance en soi pendant toutes quelques heures, pendant plusieurs formations. Mais ici, je veux vous donner quelques points, juste quelques éléments, les éléments essentiels qui vous suffiront finalement à avoir confiance, pour avoir confiance en vous lors de vos présentations. Et je sais que c'est un point qui est important pour vous, surtout si vous n'avez pas l'habitude de donner des séminaires. Si on se demande comment vont réagir les autres, cette prise de parole devant les gens, est-ce que je serai à la hauteur de l'événement? Eh bien, je peux déjà vous dire que vous serez à la hauteur, parce que rappelez-vous, quand vous avez un scénario catastrophique dans votre tête, vous pouvez le remplacer par ce scénario de réussite. Et ce scénario de réussite vous donne la place du héros. Pensez à ça. Mettez-vous dans la place d'un héros. Parce que quand vous paniquez et que vous manquez de confiance en vous, vous vous mettez dans la place du perdant, de celui de qui on se moque, de celui de qui on pointe du doigt, de celui qui n'est pas avec cette reconnaissance. Et donc tout ça fait qu'on doute de nous, de nos capacités, de nos compétences. L'image qu'on a de soi est mauvaise. Là, je vous invite vraiment à jouer sur cette imagerie mentale. Et votre cerveau peut le faire. Vous avez le pouvoir de le faire. Maintenant, au moment où vous suivez, vous m'écoutez. Vous pouvez très bien maintenant vous créer ce scénario où vous êtes un héros. Vous êtes le héros et vous rendez les autres heureux. Les autres vous disent merci. Ils sont heureux d'être là, ils vous applaudissent. Imaginez vraiment cette scène belle. Imaginez-la tellement fort que je veux que vous ayez des poils qui se dressent, des frissons. Je veux que vous ayez la chair de poule maintenant pour que la confiance se regagne. Un autre point pour avoir confiance, c'est de penser à vous entraîner. Il n'y a rien de mieux que ça parce que quand on s'entraîne, on voit finalement qu'on est capable de faire les choses. On s'entraîne, on réussit, donc on se dit « Ah, je peux le faire ». On s'entraîne et avec l'entraînement, on gagne en confiance. Un autre point, c'est de vous souvenir aussi que les personnes qui sont là dans la salle, comme je vous ai dit, sont pour vous, elles ne sont pas contre vous. Il n'y a pas un détracteur qui est là, ils n'ont pas investi de l'argent uniquement pour venir détruire cet événement. Ils sont là parce que vous savez des choses dont ils ont besoin pour avancer et progresser. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer, qui peut vous mettre en confiance. Et puis la cinquième stratégie ici, dans ce troisième module, c'est comment construire votre plan. Comment construire votre plan pour que votre présentation soit réussie, pour que votre événement soit réussi. Eh bien, en fonction du séminaire que vous allez choisir, le type de séminaire, qu'il s'agisse d'un atelier, qu'il s'agisse d'une conférence de 2 heures, qu'il s'agisse d'un séminaire avec beaucoup de participants, d'une seule journée, qu'il s'agisse d'un séminaire de plusieurs jours dans une grande salle, qu'il s'agisse plutôt d'un camp, un bootcamp, comme disent les Américains, ou un séminaire d'entraînement, un camp d'entraînement, qu'on peut dire, quel que soit le type de séminaire, ici, il faut toujours avoir en tête que lorsque vous créez votre plan, il faut toujours penser à une introduction, un développement et une conclusion. Tout simplement. Je vous dis tout simplement, en revanche, quand les gens veulent créer des séminaires, ils se disent « je vais chercher très compliqué ». Ils rentrent dans des schémas catastrophiques qui sont trop complexes. Et quand tout est complexe, on a l'impression de ne pas tout maîtriser, on a l'impression que c'est jamais prêt et on a l'impression finalement qu'on n'y arrivera pas. Et le message qui est véhiculé lors du séminaire n'est pas très clair, n'est pas très compréhensible pour les gens qui suivent l'événement. Parce que la communication est trop diffuse, il y a trop d'éléments. Pensez toujours l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, dans chacun de ces points, de ces 3 points, il vous faut ajouter des étapes et des ingrédients pour qu'il y ait de la consistance dans votre présentation. Prenons un exemple d'une introduction réussie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre introduction soit réussie? L'objectif d'une introduction, c'est quoi? Premièrement, c'est de capter l'attention des gens parce qu'on commence quelque chose. Les gens sont distraits, sont dans leur fil de pensée, sont dans différentes choses et il faut arrêter le fil de pensée. Il faut arrêter la distraction. Il faut stopper tout ça pour ramener les gens sur quelque chose. Donc, on est là pour attirer l'attention. On peut aussi surprendre dès le début. Bref, on veut dès le départ commencer avec une impression forte, créer une émotion forte et un engagement pour que finalement toute la suite de la présentation soit suivie avec beaucoup d'attention. Si l'introduction n'est pas bien maîtrisée, elle n'est pas forte, la suite finalement peut être géniale, mais les gens ne suivront pas parce que je ne les ai pas accrochés, je n'ai pas attiré l'attention et je n'ai pas finalement impressionner les gens dès le départ. Voici quelques façons de créer une introduction réussie. Vous pouvez commencer par une histoire. On appelle ça l'attention step ou une étape d'attention. Vous commencez par une histoire qui est pertinente. Et vous savez, l'être humain adore les histoires parce que pour comprendre une histoire, il faut l'écouter attentivement. Donc le cerveau, quand vous racontez une histoire, est concentré parce qu'il a besoin de tous les éléments et paramètres pour comprendre toute l'histoire. Donc quand vous commencez une histoire, les gens commencent à s'interrompre, à arrêter ce qu'ils font. La distraction s'interrompt, le fil d'attention revient, centré à votre histoire et écoute le développement de votre histoire. Soignez votre histoire qu'elle ne soit pas trop longue. Si elle est trop longue, vous allez perdre les gens en cours de route. Si elle est trop complexe, trop compliquée, vous perdez les gens aussi en cours de route. Pensez aussi, très important, j'ai vu certains orateurs commencer avec une histoire, tout va bien, mais raconte une histoire qui n'a rien à voir avec le sujet, le thème développé dans la journée du séminaire. Raconte une histoire sympa qu'ils ont entendue à gauche et à droite. L'histoire est sympa, sauf que quand il n'y a pas de lien, les gens se demandent « Mais pourquoi il me dit ça ?» Et ensuite, quand vous serez dans le développement, les gens seront toujours dans cette histoire en disant « Mais pourquoi? Quel est le rapport ?» Et il n'y a pas du tout un impact. L'impact recherché n'est pas là. L'histoire doit avoir un rapport direct. Et prenez votre histoire. Si vous voulez, par exemple, raconter votre histoire avant que vous compreniez ce que vous allez leur enseigner, comment était votre vie ou une situation donnée spécifique. Ou si vous n'avez pas une histoire personnelle, prenez l'histoire de quelqu'un d'autre. Prenez un témoignage, une étude de cas. Donc l'histoire est une bonne façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de poser une question. De commencer votre séminaire en posant une question qui attire l'attention tout de suite. Par exemple, imaginez que vous êtes sur un séminaire qui va parler de réorientation professionnelle, de changement de métier. Toutes les personnes dans votre salle sont dans une période de leur vie où ils veulent changer de métier et ils se demandent comment faire. Ils attendent beaucoup de vous dans la séminaire d'attente. Et on commence le séminaire, vous commencez comme ça, vous dites dans la salle, qui dans cette salle ici rêve ici de trouver un nouveau métier? Ben, les gens se diront, ben oui, moi. Et vous levez vous-même la main en premier avant même qu'ils lèvent leur main parce qu'ils comprennent le mouvement. C'est visuel, ils lèvent la main. Qui dans cette salle veut non seulement trouver un nouveau métier, mais trouver un métier dans lequel il sera passionné et dans lequel il trouvera vraiment de l'énergie positive tous les jours? Bam. Qui dans cette salle veut non seulement trouver un nouveau métier, trouver un métier qui le passionne, mais en plus de ça, être payé généreusement avec des revenus et réaliser. Et là, les gens lèvent leurs mains. Ok. Dans cette journée, dans les deux prochaines heures qui suivent, je vais vous partager mes X années d'expérience pour vous aider à réorienter professionnellement, vous réorienter professionnellement, atteindre telle situation de métier, avec telle passion, avec telle rémunération. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est motivé pour apprendre et découvrir ses stratégies? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous levez la main et les gens lèvent la main, mais en plus de ça, si vous avez bien fait les choses, ils lèvent la main avec même peut-être certains cris d'enthousiasme qui se font dès le départ. Bien sûr, ça c'est une forme de séminaire qui joue beaucoup sur la motivation. Ce n'est pas bien sûr la formule à utiliser dans chaque type d'audience. Il y a des audiences beaucoup plus posées et sérieuses. Si vous parlez à certains notaires de certains sujets, ils ne vont pas forcément se sentir emballés de la même façon. À vous d'adapter tout ceci. Ensuite, dans le développement. Le développement, c'est quoi? Pensez dans votre développement à emmener un problème. Je n'aime pas beaucoup utiliser le mot problème, mais emmener une douleur, une peine, une difficulté. Une difficulté qu'il rencontre, que votre audience rencontre. Ensuite, quand il y a cette difficulté qui est posée, montrez ensuite qu'il y a un raisonnement logique. C'est pourquoi les difficultés arrivent, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites, qui mènent à cette difficulté, à cet obstacle. Donc les gens vont voir, ah, je comprends de façon rationnelle que si je vivais telle situation, c'est parce que j'ai fait ça ou parce que j'ai appris ça ou parce que les autres m'ont fait apprendre ci ou ça. Donc il y a finalement quelque chose de plus rationnel. Mon cas n'est pas perdu, mon cas n'est pas désespéré. Lorsqu'ils en sont à cette situation, il faut les aider à déculpabiliser, à se dire finalement que ce n'est pas de leur faute. Hein. S'ils en sont là, c'est parce qu'on nous a enseigné ça, transmis ça, ou alors différentes choses qui permettent de dire « Ok, il y a non seulement une explication rationnelle qui explique pourquoi j'en suis là, mais en plus de ça, ce n'est pas de ma faute. » Donc il y a de l'espoir. Si aujourd'hui je prends conscience des choses, je peux faire différemment. Maintenant, dites-leur ce qu'il leur faut dans la vie, ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent remplacer, ce qu'ils doivent maintenant comprendre. Ils doivent comprendre une nouvelle chose dans leur tête, dans leur esprit, pour changer, pour qu'il n'y ait plus la même situation douloureuse, les mêmes problèmes, mais une nouvelle voie, un nouveau système. Et là, quand vous posez ce concept nouveau, il faut qu'ils se disent « Waouh !» Ce concept me paraît plein de bon sens. Je n'avais pas vu les choses comme ça, waouh ! Et là, ils sont vraiment dans l'attente de ce que vous allez leur partager. Vous voyez, jusqu'à ici, dans le développement, on n'a pas encore parlé de stratégie. On n'a pas encore parlé d'étapes. On n'a pas encore parlé de conseils à proprement dit. La plupart des organisateurs de séminaires commencent tout de suite le développement en disant « Voyez, il y a trois points à faire. Point 1, c'est ça. Point 2, point 3, c'est ça. » Sauf que c'est très mécanique et il n'y a pas de transcendance. Ça n'élève pas, ça ne crée pas une expérience formidable. Alors vous commencez avec les douleurs, les problèmes. Ensuite, vous montrez qu'il y a un raisonnement logique qui mène à ça, que ce n'est pas leur faute spécialement, qu'il y a des événements qui ont mené à ça. Et vous leur montrez ensuite qu'il faut comprendre quelque chose de nouveau, un nouveau état d'esprit pour pouvoir changer. Une fois qu'il y a ça, vous avez préparé le terrain pour finalement dire « Maintenant, je vais vous montrer comment vous devez faire ce que vous devez faire. » Et pour ça, il y a par exemple 3 points à suivre, 4 points, 5 points, 7 points, 10 points, 11 points. N'en fixez pas trop non plus des points, parce que sinon on peut se perdre. S'il y a 27 points, ça fait un peu beaucoup. 3 points, c'est bien. 4, 5, 6, jusqu'à 10, 11 points que vous aurez pris le temps dans votre méthodologie, dans votre expérience, de par votre expertise, de préparer et de soigner, de rendre facilement simple à apprendre. Et donc ici, vous allez pouvoir maintenant donner cette partie stratégique qui est la galette, qui est le plat de résistance, qui est ce que les gens attendent depuis le début. Et quand vous leur donnez ça, dans la fin du développement, vous leur dites ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent l'appliquer finalement. Et quand ils savent ce qu'ils peuvent appliquer, vous avez fait votre travail pour ce développement. On passe ensuite à la conclusion. Qu'est-ce que vous devez faire dans une conclusion réussie? Une conclusion réussie, tout simplement, d'abord, reprend les éléments qui ont été vus, de faire une synthèse de ce qui a été vu et développé lors de votre échange, lors de votre séminaire, lors de votre contenu. Une synthèse. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une citation, ajouter un conseil, une recommandation, bref, quelque chose qui peut être inspirant et motivant pour la suite, parce que ce que vous devez toujours faire, c'est de montrer aux gens maintenant ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert en conclusion, ce que ça va changer dans leur vie. Dites-leur ce qu'ils doivent faire ensuite, l'étape d'après, parce qu'ils doivent l'appliquer, hein, ça ne doit pas rester théorique, ce qu'ils doivent faire, ce que ça va faire et changer dans leur vie, rendez les choses positives dans votre explication. L'excellente nouvelle pour vous, c'est que quand je parle d'intro, de développement et conclusion, ce n'est pas forcément début de séminaire, milieu de séminaire et fin de séminaire. Non, vous pouvez lors de votre présentation, dans chacune des parties de vos présentations, insérer une introduction, un développement, une conclusion. Exemple, vous savez que vous avez trois parties d'intervention, vous avez trois PowerPoint ou Keynote différents pendant toute la journée. Eh bien, le premier PowerPoint dure 1h30 par exemple. Dans ce premier PowerPoint, vous avez déjà une introduction, un développement et une conclusion. Dans la deuxième présentation, vous avez une introduction, un développement et une conclusion. Dans la troisième, vous avez une introduction, un développement et une conclusion. Et si vous faites la somme de ces trois parties-là, l'ensemble du séminaire aussi est construit avec une introduction, un développement et une conclusion. Et là, votre présentation est vraiment réussie. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant pour conclure ce troisième module, premièrement, pour gérer votre salle, faites une checklist de tout ce que je vous ai partagé et notez ça, entraînez-vous et répétez. Pour gérer votre trac et votre stress, notez ce que je vous ai partagé et entraînez-vous déjà maintenant à respirer par le ventre, à changer votre imagerie mentale. Ensuite, pour la prise de parole, entraînez-vous maintenant. Prenez les quelques points, prenez vos notes et entraînez-vous à parler dans une salle. Enregistrez-vous, c'est idéal. Si vous avez un dictaphone, une petite caméra, enregistrez-vous, analysez-vous et corrigez-vous. Quatrième point, pour votre confiance en vous, entraînez-vous déjà maintenant mentalement à vous mettre dans cet état d'esprit, cette attitude. Et puis, cinquièmement, construisez déjà un plan en prenant une carte mentale, par exemple, et en écrivant déjà « introduction ». Développement et conclusion. Dans votre introduction, prévoyez plusieurs points, plusieurs cases à compléter ensuite. Dans le développement, prévoyez plusieurs cases à compléter ensuite et dans la conclusion également. Faites cet exercice et moi, je vous retrouve dans le quatrième module pour partager à nouveau une nouvelle stratégie pour vous aider ensuite ici à développer des séminaires rentables et réussis. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.